Bonjour à tous. J'ai mis pour titre à ce message « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Pourquoi est-il mort ? C'est une question qu'on peut se poser. Et si on ne connaît pas Dieu, c'est une question forcément qu'on se pose. Combien de personnes dans nos entourages connaissent les histoires bibliques, savent même que Jésus est mort sur une croix ? On le voit tellement représenté dans nos campagnes. Et pourtant, combien savent pourquoi Jésus est mort ? Et pour traiter cette question, on va regarder dans l'évangile de Marc principalement. Mais avant, j'aimerais commencer par une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2, verset 6. Ça va résumer la première partie de ce message. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, et il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité, et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Maintenant, à la lumière de ce texte, j'aimerais qu'on prenne l'évangile de Marc, et on va pas le lire d'une façon habituelle où je vais prendre un passage. Je vais lire quelques passages dans Marc, mais ce qui va être intéressant ce soir, c'est de voir une vision plus globale de certaines histoires que Marc nous rapporte. Dans un premier temps, pour comprendre, aller plus loin même dans cette prédication, il nous est nécessaire de lire un premier passage au chapitre 8 de Marc. C'est le point de départ sur lequel on peut avancer. L'évangile de Marc, il est particulier parce que c'est un évangile qui, quand on le lit littéralement, nous paraît comme une suite de faits, les uns après les autres. Et quand on regarde un peu plus loin l'évangile, on se aperçoit que l'évangile de Marc est tout un enseignement par la pratique. Et quand on regarde tout les choses pratiques que Marc montre, il y a un but qui est poursuivi. Dans l'évangile de Marc au chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 27, et 31, jusqu'à 31, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur posa en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, ce qui veut dire « ouin, Messie ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire de dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Nous avons cette première phrase suite à ce que Pierre dit. Tu es le Christ. Le Christ qui veut dire le Messie, loin de l'Éternel, celui qui doit venir sauver les hommes, l'humanité tout entière. Et c'est sur cette base-là seulement qu'on va pouvoir continuer. Parce que on ne peut croire la suite de cette prédication que si on a compris que Jésus-Christ est réellement venu sur la terre et qu'il a surtout été envoyé par Dieu. Que Jésus a été envoyé par Dieu. Et ça, il nous faut bien le comprendre. Tant qu'on n'a pas réalisé ça, tant qu'on n'a pas compris que nous sommes là ce soir, peut-être que il peut arriver qu'on vienne et qu'on revienne, et puis que ce soit des choses agréables à entendre ou des choses qui éveillent notre curiosité, tout simplement. Mais si on en reste là et qu'on n'accepte pas que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, alors on ne pourra pas aller plus loin dans la découverte de ce qu'il a fait. Il nous faut accepter cette idée que Jésus est le Christ, qu'il est celui qui est envoyé par Dieu et qui peut changer ta vie ce soir. Jésus peut changer ta vie parce qu'il est le Christ, parce qu'il est envoyé par Dieu. N'allez pas plus loin si vous n'acceptez pas déjà cela. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que si on n'accepte pas l'idée que Jésus puisse changer des choses en nous, ça ne sert à rien de venir. Ça ne sert à rien de venir comprendre ce qu'il a fait après, parce que si on n'a pas compris que Jésus pouvait changer quelque chose dans ma vie, ça ne sert à rien. C'est la première chose. Ce soir, dans quel état d'esprit es-tu venu ? Est-ce que tu es venu pour justement assister à un temps où on partage le jour de la parole, mais pour passer du temps ? Ou est-ce que tu es venu dans l'espoir que quelque chose change dans ta vie ? Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Peut-être que tu vis des choses difficiles. Peut-être qu'il y a des choses qui sont terribles. Tu es fatigué, tu es sous le poids de lourds fardeaux, de soucis, d'inquiétudes, je ne sais. Si tu n'acceptes pas l'idée même que Jésus peut changer ça, alors ça ne sert à rien d'aller plus loin. On va partir sur la base qu'on nous le croyons. Alors on va un peu plus loin. C'était la base. Une fois qu'on a compris ça, on voit cette phrase toute simple qui dit dans ce passage que nous venons de lire, « Alors il commença à leur apprendre. » Alors il commença à leur apprendre. La mort de Jésus ne pouvait pas être présentée avant. Une fois qu'on a compris que Jésus était envoyé par Dieu, alors on peut commencer à parler de sa mort. Et commencer à leur apprendre. Et c'est un enseignement qui est dur à comprendre, qui est difficile à accepter, parce qu'il implique plusieurs choses. Maintenant, on va regarder l'évangile de Marc d'un plus haut regard. C'est un peu comme, vous voyez, des fois on prend des passages, c'est un peu comme un flocon de neige. Quand on regarde avec un microscope, c'est super joli. Mais des fois, quand on regarde des paysages entiers enneigés, c'est tout aussi joli. Et là, on va regarder le chapitre 9 et 10. On ne va pas les lire, mais notez-les. Vous pourrez réfléchir plus tard. On va prendre les chapitres 9 et 10 en entier. On va juste évoquer ce qui s'y trouve. La première chose qu'on trouve dans Marc 9, c'est que Jésus est transfiguré. Il va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, ils vont aller sur une montagne, une haute montagne, et là, les trois disciples, vont assister à quelque chose de glorieux. Ils vont assister à Jésus revêtu de lumière, en train de discuter avec Moïse et Élie. Une révélation du royaume de Dieu. C'est ni plus ni moins que la preuve de l'affirmation de Pierre juste avant « Tu es le Christ ». Là, on passe à la pratique. Ils ont la preuve que Jésus est bien envoyé de Dieu parce qu'ils entendent même une voix du ciel qui dit que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus est là comme une lumière. Il est la lumière du monde. Dans l'évangile de Jean, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il nous faut la lumière de Jésus. Cette lumière va nous apporter bien des choses. Elle est envoyée par Dieu, cette lumière, et elle va nous permettre de comprendre que Jésus, il veut éclairer nos vies. Jésus nous vient d'un monde de lumière, un monde où les ténèbres n'existent pas. Jésus nous vient d'un monde de pureté, de blancheur, de tout ce qu'il peut y avoir de plus pur, de plus saint. Et le péché n'a pas sa place dans cet endroit. C'est de là que Jésus vient. Jésus est la lumière. Continuons un petit peu plus. Ensuite de cette histoire de la transfiguration, à partir du verset 14, on voit que Jésus, la lumière, va être confronté aux plus profondes ténèbres. Il va descendre de la montagne, de la même manière que Jésus est descendu du ciel jusqu'à nous. Il s'est fait homme parmi nous. Il descend de la montagne. Les disciples vont descendre de la montagne et vont arriver dans un lieu où ils vont rencontrer un enfant qui est complètement enténébré. Depuis sa naissance, il est possédé par un démon. Jésus se retrouve complètement confronté, il y a une opposition, on a vu cette première partie de chapitre, Jésus est la lumière, et là on arrive vraiment dans les ténèbres. Et il y a cet enfant qui est possédé par un démon. Les disciples qui étaient restés n'ont pas réussi à faire en sorte que le démon soit parti, que le démon s'en aille. Et Jésus leur dit, « Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Et là, il dit une parole très forte, « Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. » C'est au verset 19. « Amenez-le-moi. » Et ça, cet enfant nous parle du péché que nous avons en nous dès la naissance. Nous avons tous cette mauvaise face cachée, je dirais. Une face cachée qui est égoïste, qui pense qu'à soi. Une face cachée qui est méchante, qui est jalouse, qui est peut-être orgueilleuse parce qu'on aime se retrouver plus haut que les autres quelque part. Une face peut-être rebelle aussi. Et tout cela, il faut l'amener à Jésus. Ce péché qui est en nous, cette face cachée dont nous avons honte nous-mêmes parce que nous connaissons même, nous sommes surpris nous-mêmes parfois par nos propres comportements dans le mal. Cette face cachée, ce péché qui est là, il va falloir que nous l'apportions à Jésus. Mais pour cela, amenez-le-moi. De quoi il est question ? Cet enfant qui est possédé par un démon se retrouve proche de Jésus, proche de la lumière. Et à la lumière de Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Le démon est révélé lui-même. On peut juste le lire, regardez, c'est au verset... on est au verset 19. Verset 20, « On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Le péché en présence de Jésus est révélé. Le démon qui était dans cet enfant, à l'approche de la lumière, forcément, est révélé, parce que la lumière éclaire toute chose. Quand on s'approche de Jésus, si on considère toujours, j'en suis toujours sur cette base, si on considère que Jésus est le Christ, et si nous faisons l'effort de vouloir nous approcher de lui, alors il va nous révéler, par sa lumière, le péché, notre état de péché. Il nous faut être lavés de ce péché pour avoir accès au royaume de Dieu. L'enfant était comme cela depuis tout petit. C'est exactement l'image du péché qui est en nous. David écrit dans le psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Depuis tout petit, nous sommes dans le péché. Et si nous nous approchons de Jésus, qui est la lumière, alors si nous cherchons de tout notre cœur, il va illuminer nos yeux. Il va nous montrer comment Dieu nous voit avec notre péché. On voit que Jésus continue son enseignement parce qu'on parle toujours quelque part ces deux histoires, on se dit mais qu'est-ce qu'elles font là ? Ces histoires sont toujours reliées au fait de ce que Jésus veut apprendre à ses disciples. Jésus, on le lit à partir du verset 30, je vais lire dans une autre version, Marc 9, 30. En partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus désirait y passer sans se faire connaître, car il voulait se consacrer à l'instruction de ses disciples. Il leur répétait, donc c'est la deuxième fois que les disciples entendent ça, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, mais trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Jésus va mourir, et à travers ces deux aspects du chapitre 9, Jésus transfiguré, Jésus face aux ténèbres, qu'est-ce qu'on y comprend par rapport à la mort de Jésus ? Jésus est plus fort que la mort. Jésus va ressusciter. Et sa mort, à quoi elle va servir ? Elle va servir à avoir une victoire totale sur le péché, parce que le péché ne peut rien. Jésus va mourir pour que le péché puisse être anéanti. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est une première raison. Jésus est mort pour anéantir les œuvres du diable, pour anéantir le péché qui est en nous dès notre naissance. L'apôtre Pierre écrit cela. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Je passe un peu des descriptions, mais il dit à la fin, vous qui avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Moi qui suis dans le péché dès ma naissance, Dieu m'appelle à devenir comme lui, aussi lumineux que lui. Il m'appelle à vivre auprès de lui. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Ensuite, un peu plus loin, après cet enseignement que Jésus redonne à ses disciples, Il y a une discussion entre les disciples sur celui qui est le plus grand. Et c'est là où on en arrive à cette introduction qu'on a lue tout à l'heure dans Philippiens, parce que Jésus nous montre que le plus grand, pour être grand, il faut être petit. Et il y a toute une introduction sur la raison, après, sur le chapitre 10, parce que Jésus nous montre qu'il s'est fait petit chez les petits. Il s'est fait petit chez les petits que nous sommes. Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir marcher parmi nous, marcher en toute humilité. Il a grandi, vous avez vu, il voulait enseigner les disciples, mais il voulait que personne ne le sache. Quand sa transfiguration a lieu, il dit bien à ses trois disciples de ne rien révéler tout de suite, parce qu'il ne fallait pas que tout se sache de suite. Il est grandi en étant caché quelque part. Seuls ceux qui le cherchaient pouvaient le trouver. Avant d'introduire Marc 10, j'aimerais qu'on lise dans Colossiens, au chapitre 2, et là nous avons à nouveau un petit résumé de ce que nous allons lire dans Marc 10. Donc dans Colossiens, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 13 à 15. On a chanté un chant sur le fait que le sang de Jésus effaçait l'acte, et c'est exactement ce dont il est question dans le chapitre 10 de Marc. Colossiens 2, 13, « Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles, alors c'est pas la même version que vous, hein. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. » Cet acte-là qui mentionnait tous nos manquements, ça veut dire que depuis notre naissance, la moindre chose, le moindre péché que nous ayons fait est inscrit. Et seul le sang de Jésus peut effacer cet acte-là qui nous condamne. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix, il l'a démasqué. Et puis désarmer toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Curieusement, le chapitre 10 de Marc commence sur une controverse sur le divorce. Vous allez me dire de quoi ça a à voir. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Un homme est libéré ou une femme est libérée de cette alliance que par la mort de son conjoint. Et Jésus nous fait bien comprendre que on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et là encore, à la lumière de ce que Jésus, n'oublions pas qu'il cherche toujours à enseigner par rapport à la raison de sa mort. Parce qu'il y a une alliance qui existe. La première alliance qui est la loi. Cette alliance par laquelle nous sommes tous condamnés, parce que personne ne peut... Qui a vécu sans péché? Qui a déjà réussi à ne jamais mentir dans sa vie? Ça nous est tous arrivé. Le moindre manquement nous condamne. Le moindre manquement à la loi, tu ne voleras pas. J'ai volé une fois, c'est terminé. Tu ne commettras point d'adultère. Jésus nous dit que même des fois en pensée, parce qu'après il y a la convoitise, on peut être amené à enfreindre la loi. Pour un rien du tout, nous pouvons enfreindre la loi de Dieu, cette alliance qui finalement nous condamne. Comment être sauvé? Il y a bien une alliance. Cette loi sert à nous montrer que nous sommes mauvais et que nous avons besoin de quelque chose de plus excellent, comme l'écrit Paul. Une nouvelle alliance. Et pour cela, il fallait bien qu'il y ait la mort de cette alliance-là. Il fallait que cette alliance soit terminée, ce premier mariage soit terminé. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est parce que cette alliance-là est finie. À la place, une autre alliance prend place. Une alliance qui n'est plus basée sur la loi, mais sur la foi. Une alliance qui est basée sur le fait que je crois que par le sacrifice de Jésus, je peux être sauvé. Dans le livre d'Habacuc, il est dit « Le juste vivra par sa foi ». C'est parce que je crois que Jésus est mort à ma place. Il est mort pour moi sur la croix. Que je peux être sauvé, parce que la première alliance me condamne. Que dit cette nouvelle alliance ? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Elle est simple, cette alliance. Il nous suffit de croire dans la suffisance du sacrifice de Jésus à la croix. Il nous suffit de croire que la mort de Jésus à la croix est suffisante pour que moi, je puisse être sauvé. Mais c'est tout, vous me direz. C'est aussi simple que ça. Et oui, regardez la suite. Il n'est question d'accueillir les enfants. Les disciples refusaient d'accueillir les enfants, mais Jésus dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Autrement dit, de quoi il est question ? Il nous faut accepter simplement, comme des enfants. Comme un enfant qui reçoit l'instruction de son papa, de sa maman. Un enfant ne se pose pas de questions, il croit sur parole ses parents. Et Jésus nous montre par là, Marc nous montre en choisissant justement ce fait-là, qu'en ce qui concerne la nouvelle alliance, en ce qui concerne la mort de Jésus, il nous faut croire simplement, comme un enfant, que c'est la vérité. Il nous faut accepter que oui, nous ne pourrons pas avoir accès autrement que par la mort de Jésus à la croix, à la présence de Dieu. Ce salut, il nous est offert par Dieu. Et il nous faut l'accepter, tout simplement. Il est pour nous. Si on continue, on a un autre développement. Il nous est parlé des riches et le royaume de Dieu. La conclusion de cette histoire, c'est que pour un riche, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons là un nouvel enseignement par rapport à la raison de la mort de Jésus à la croix, c'est que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est seulement par Jésus-Christ, par sa mort à la croix. On peut croire qu'on a fait des choses de bien dans la vie et on essaye de gagner notre salut. Combien de religions sont basées sur le fait d'accomplir un certain nombre de bonnes actions pour espérer être sauvés ? Elles sont toutes comme ça. Tout est basé sur le fait qu'il faut accomplir des bonnes choses, il faut s'appuyer sur ce qu'on est capable de faire, et alors peut-être qu'on pourra obtenir une faveur. Mais la mort de Jésus va à l'encontre de tout ça, parce que ce que nous laisse cet enseignement, c'est que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par ce que nous pouvons être capables de faire que nous pourrons obtenir un quelconque salut. Il nous faut accepter simplement la mort de Jésus comme un enfant. Et ensuite, il ne faut pas compter sur nos propres bonnes œuvres. Et si je crois avoir certaines richesses, alors il faut les laisser. C'est exactement ce que ce jeune homme riche n'avait pas compris. Ce que Jésus essaye d'enseigner à ce jeune homme riche, c'est qu'il n'avait pas besoin de vivre sous la loi, parce que c'est ce que le jeune homme riche lui dit. J'ai accompli toutes ces choses sans jamais en déroger à aucune. Mais le problème, c'est plus la loi, c'est la foi. La nouvelle alliance est basée sur la foi. Or, si le jeune homme riche vend tout ce qu'il a et qu'il compte sur la grâce de Dieu, là, il y a la foi qui se met en route. Parce qu'il croit que Dieu peut subvenir à ses besoins. Et c'est exactement la nouvelle chose que Jésus veut nous enseigner. Reprenons Marc 10, 32. Parce que c'est toujours le même enseignement que Jésus essaye de transmettre. Verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jésus rappelle à nouveau que tout ça, c'est concernant sa mort. Tous ces morceaux choisis de Marc concernent la mort de Jésus, concernent la raison pour laquelle il est mort. Qu'est-ce qu'on y voit ? Que la loi condamne. Vous avez vu ? Dans ce que nous venons de lire, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Cela représente la loi. Et ils seront livrés aux païens, qui, eux, vont faire subir à Jésus les pires souffrances qu'il a jamais connues, physiques, je parle. La loi nous condamne, et nos péchés nous font souffrir. Les païens dont il est question ici dans ce passage nous parlent de tous nos péchés. Jésus va souffrir à cause de mes péchés. Il va subir un acte de condamnation. Il va être condamné par la loi à ma place parce que il a pris mes péchés sur lui. Il est condamné à mort pour moi. C'est moi qui devrais mourir, mais c'est lui qui va mourir à ma place. Il va porter toutes mes souffrances. La loi me condamne, mais il est livré aussi aux païens qui vont le faire souffrir. Il donne quelques détails, il dit qu'il va beaucoup souffrir, parce qu'il va porter tout notre péché, il va subir la haine des hommes qui vont se déverser sur lui. Pardon. Il a quitté sa gloire pour se faire petit chez les petits, jusqu'à se faire rabaisser, jusqu'à se faire clouer sur une croix parmi des criminels. Jésus le savait, et c'était le prix à payer pour que nous puissions être sauvés. Nous y voyons là tout l'amour de Dieu. Jésus est mort parce qu'il nous aime. Et que la seule solution pour que nous puissions être sauvés, c'était que lui meure pour nous. Il nous faut accepter ça, c'est un fait qu'il nous faut accepter, recevoir, comme un enfant. Ne comptons pas sur nos œuvres ou ce que nous pouvons être capables de faire. Non, il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut nous ouvrir la voie du ciel. Jésus nous dit qu'il est la porte. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Le chapitre 10 se termine sur une guérison. Alors que nous sommes recueillis, je termine sur ce chapitre 10. Il est question de la guérison d'un aveugle qui s'appelle Bartimée. Et cet aveugle-là, il n'est pas si aveugle que ça. Parce qu'en Jésus, il voit le fils de David. En Jésus, il voit le roi. Il voit celui qui est appelé à régner. Et il reconnaît le fait que Jésus, un jour, reviendra pour régner. Il reconnaît en Jésus le Messie. Et cet aveugle-là, lui, va être guéri. Jésus, un jour, va revenir. Il reviendra régner. Et le chapitre 10 se termine sur cette phrase « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que nous pourrons nous entendre dire un jour « Parce que tu as cru, tu es sauvé ». Parce que tu as cru, tu es sauvé. Comme cet aveugle qui, par sa foi, a été sauvé, par sa foi, a recouvert la vue. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et ce soir encore. Il voudrait t'ouvrir les yeux sur la raison, les raisons qui l'ont amené à mourir sur une croix. Alors que nous sommes recueillis, si jamais tu voulais comprendre, j'ai essayé de brosser un tableau qui essaye d'expliquer ce que la mort de Jésus pouvait signifier. Mais ce n'est rien si Jésus ne vous le révèle pas directement. Comme nous l'avons vu en introduction, il faut comprendre que Jésus, c'est le Christ. Et si vous n'acceptez pas l'idée que Jésus puisse vous éclairer, si vous n'acceptez pas l'idée que Jésus puisse vraiment vous montrer, vous faire comprendre que vous avez besoin de sa grâce, alors même ce message ne sert à rien. Si quelqu'un veut aller plus loin, si quelqu'un veut comprendre un peu plus, avoir cette révélation, comme les disciples l'ont eu quand ils étaient sur la montagne, le Seigneur veut se révéler à ton cœur ce soir. Mais il faut avoir cette prière. Il faut reconnaître le fait que Christ en est capable. Et il faut lui demander sa grâce. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur une croix pour que tu puisses être pardonné? Il n'y a rien à ajouter. Jésus a dit, tout est accompli. Il suffit simplement de croire dans l'efficacité de son sacrifice à la croix. Alors lève la main. Si tu veux que Dieu te visite, il y a un pas de foi que tu peux faire, c'est de lever la main. Nous allons prier. Mais plus que de lever la main et de demander la grâce de Dieu, quand tu vas rentrer chez toi ce soir, cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le et demande-lui. Relis ces chapitres à la lumière des explications que je viens de donner. Relis ces chapitres et comprends que la mort de Jésus, c'est pour te sauver parce qu'il t'aime. Qui veut ce soir demander la grâce de Dieu? Qui veut faire un pas supplémentaire dans la connaissance de Dieu et demander à Dieu qu'il fasse la lumière sur sa propre vie, qu'il lui fasse comprendre qu'il a besoin de sa grâce? Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Te rendre grâce parce que nous n'avons rien à faire, sinon te demander pardon pour nos péchés, sinon venir à toi tel que nous sommes et implorer ta grâce. Seigneur Jésus, tu es mort pour nous parce que tu nous aimais, et nous ne pouvons nous approcher de toi que si nous te demandons pardon. Nous ne pourrons nous approcher de toi que si tu nous ouvres les yeux pour que notre pardon soit sincère et nous faut réaliser à quel point nous avons besoin de ta grâce. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont là, qui ont encore besoin de la grâce de Dieu ce soir. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu illumines les yeux de ceux qui en ont besoin, Seigneur. Que tu puisses éclairer, parce que tu es cette lumière qui nous montre que nous avons besoin de toi, que nous sommes sales devant toi. Seigneur Jésus, étends ta main. Et fais-nous grâce ce soir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.